Avec nous, Denis Jambard, directeur de l'Express, Daniel Lecomte, producteur et réalisateur de télévision. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
C'est une image qui date maintenant de plus de 4 ans, qui a fait le tour du monde, qui a eu un rôle important dans la propagation de l'intifada, qui a suscité les passions à l'époque. Nous-mêmes, nous avions eu en son temps Olivier Mazerolle, avec lequel nous étions longuement revenus là-dessus. Aujourd'hui, l'affaire rebondit avec une enquête qui a été réalisée initialement pour vos deux supports et qui n'a pas donné lieu à une publication. Vous expliquez la genèse et le développement de cette affaire dans un article paru dans le Figaro la semaine dernière sous le titre « Guet-apens dans la guerre des images » et ce surtitre « Qui a tué le jeune palestinien de Netzarim le 30 septembre 2000 ?» Vous êtes parti du principe apparemment qu'on pouvait faire une enquête journalistique honnête en dehors des passions. À quoi est-ce que vous avez abouti, Denis Jambard?
Mais d'abord, on a essayé de faire un travail de journaliste de base, c'est-à-dire regarder le matériel tel qu'il existe. Parce qu'on a vu ces quelques minutes dans les journaux télévisés, mais on n'a pas vu la totalité de la séquence, c'est-à-dire, je crois, 27 ou 28 minutes qui avaient été tournées par le caméraman. Et donc le premier travail de l'enquête, ça a été de demander, après avoir ramassé un certain nombre d'informations qui posaient un certain nombre de questions, recueilli la totalité des déclarations des différents, disons, acteurs de cette histoire, et notamment de Charles Anderlin et de son caméraman, pour essayer de voir, en fonction de ce qui avait été diffusé, de ce qui avait été déclaré, et de la réalité du matériau initial. Et donc, nous avons eu accès à ces rushs, nous les avons visionnés, et nous avons reposé un certain nombre de questions parce que nous étions extrêmement troublés parce que nous avions vu à ce moment-là, lors de la projection de ces rushs, dans le bureau, il faut bien dire, d'Arlette Chabot, qui a parfaitement joué le jeu, la directrice de l'information de France 2. Et ça a suscité un certain nombre de réactions, cette rencontre, notamment. Cette rencontre a été dévoilée. Nous faisions un travail de journaliste de base, hein, c'est-à-dire aller au bout de l'enquête avant publication. On ne publie pas les étapes d'une enquête. Une enquête, on la prend du point A et on essaie de la mener à son terme. Il n'y avait aucune raison qu'on s'explique ou qu'on communique en cours d'enquête, sauf si nous avions trouvé des choses indubitables et définitives au milieu de l'enquête. Mais on voulait aller au bout de l'enquête. Et puis, au milieu de cette enquête, l'agence Lamena a sorti un certain nombre d'informations concernant ces rendez-vous, et ça a beaucoup perturbé, disons, notre travail. Néanmoins, France 2, à la suite des questions que nous avons posées, a fait faire un certain nombre de vérifications auprès de son correspondant, et nous étions prêts à en tirer des conclusions. Tout ça a été expliqué dans la presse sans que nous-mêmes nous exprimions, ni Daniel Lecomte, ni moi-même. Et il y a eu un débat, des mises en cause, et nous avons préféré prendre le temps que les choses retombent et se calment pour redevenir audibles et donner nos conclusions au moment où nous nous sommes arrêtés d'enquêter.
Daniel Lecomte.
Oui, enfin, je crois que Denis a très bien résumé le point de vue. Juste pour dire pourquoi, effectivement, nous n'avons pas souhaité, alors que nous avons été sollicités à ce moment-là, répondre aux questions des journalistes. Parce que, comme l'a dit Denis, nous voulions aller au bout de cette enquête. Elle n'était pas terminée. Et on avait le sentiment, en tous les cas, que pour nous, c'était impossible de nous faire entendre, de faire entendre notre vérité sur cette affaire. Qu'il y avait, du coup, le face-à-face habituel depuis 3 ans entre l'Amena et France 2, qu'on retombait, si vous voulez, dans ce face-à-face, avec des positions de part et d'autre qui n'étaient pas les nôtres. Donc, on a souhaité attendre et s'exprimer au moment où on serait entendu, ce qui semble être le cas aujourd'hui.
Nous ne voulions être prisonniers de personne.
Alors, vous expliquez dans l'article du Figaro que vous ne reprenez pas à votre compte la thèse de la MENA selon laquelle la fusillade de Netzarim correspondait à une mise en scène et que l'enfant n'est pas mort, mais vous avez relevé l'un et l'autre un certain nombre de choses qui sont troublantes, notamment quand Anderlin dit dans son commentaire que Jamel et son fils sont la cible de tirs venus de position israélienne, ça c'est faux. Et tout le monde en convient aujourd'hui.
Oui, tout le monde en convient aujourd'hui. Alors naturellement, on nous oppose que l'armée israélienne n'a jamais répondu là-dessus. Mais l'armée israélienne, elle répond quasiment jamais sur rien. Donc c'est le choix de communication qu'elle a fait. Néanmoins, avant de donner cette précision-là, il faut dire aussi que dans ces rushs, pendant 24 minutes à peu près, on ne voit que de la mise en scène, c'est-à-dire des jeunes Palestiniens utilisant d'ailleurs la télévision pour, comme moyen de communication, c'est l'arme des faibles, je dirais aujourd'hui l'image aussi, simulant des blessures, etc. On les voit tomber quand ils ont l'impression qu'il ne se passe rien, ils se redressent, etc.
C'est... Et tout ça, et on... alors, ça quand même, c'est un, élément, ça... c'est un élément tout à fait nouveau vous avez découvert.
Naturellement, ça, nous l'avons totalement découvert, et la scène de l'enfant et du père sont totalement sortis de ce contexte. Là, du point de vue médiatique, disons du point de vue journalistique, il eût été intéressant de remettre tout ça en perspective, de le raconter. C'est un envers du décor qu'on ne montre jamais. Moi, je ne porte pas de jugement sur le comportement des Palestiniens. Comme je dis, c'est l'arme des faibles. Mais c'est une vérité. Il n'y a qu'un homme qu'on voit blessé à un moment donné à la cuisse. Là, on voit clairement qu'il y a du sang qui coule. Mais pour le reste, vous voyez des garçons qui regardent la caméra, qui font semblant de tomber, qui tombent. Et puis quand ils voient qu'il ne se passe rien, ils repartent en courant.
Et qui simulent des blessures.
Et ils simulent des blessures totalement, des va-et-vient d'ambulance où on évacue des gens qui n'ont strictement aucune blessure. C'est aussi un élément important du film. Et d'ailleurs, qui fait que dans la première vision, on a été extraordinairement troublé. Et le deuxième élément de trouble, c'est la scène elle-même. C'est-à-dire que on a demandé des vérifications parce que le père porte un t-shirt sur lequel on ne voit aucune trace de sang. Et ça a été un des éléments qui nous a aussi troublé. Et derrière, le père a été refilmé pour montrer exactement les impacts de blessures par rapport aux blessures qu'on constatait quelques heures après quand il a été filmé à l'hôpital. Et puis il y a le dernier point, c'est-à-dire que Charles Anderlin dit « j'ai coupé parce l'agonie. Que la scène de l'agonie est insupportable ».
Ça, il le dit à Télérama. Et
oui,
ça, c'est
oui, oui, il l'a déclaré tout de suite et il le redit à Télérama. Et ça, écoutez, nous, à moins qu'on nous l'ait caché, mais en tout cas, on ne l'a pas vu. Parce que on a vu ce qu'il a montré à la télévision et tout de suite après, on voit arriver une ambulance et on ne voit aucune scène d'agonie.
Daniel Lecomte.
Oui, pareil, Denis a parfaitement résumé la situation. J'ajouterais dans la mise en scène qu'évidemment, autour de la table, quand nous étions avec les représentants de France 2, ils ont été obligés de reconnaître, comme nous, que c'était de la mise en scène, ce qui est quand même extravagant. Et quand on leur a dit, mais vous voyez bien que c'est de la mise en scène, l'un d'entre eux nous a dit en souriant, mais oui, mais tu sais bien que c'est toujours comme ça. Alors j'ai dit, toi tu sais peut-être, mais le téléspectateur il ne sait pas que c'est toujours comme ça.
Oui, alors il y a eu une réponse, j'aimerais d'ailleurs votre sentiment là-dessus, parce qu'il y a eu une réponse de Charles Anderlin à votre propre papier dans le Figaro du lendemain ou du surlendemain. Et alors l'un de ses arguments majeurs, c'est de dire, l'image correspondait à la réalité de la situation.
Alors moi si vous voulez, là-dessus je voudrais dire deux choses. La première c'est que sur la réponse d'Anderlin, je vous ferai remarquer qu'il ne répond sur aucun des points que nous avons soulevés, ce qui veut dire en gros qu'il nous donne raison et qu'il ne remet pas en cause tout ce que nous avons dit, ce qui est pour nous très important. De toute façon, ce serait difficile de le mettre en cause puisque tout est avéré, tout peut être vérifié. Mais enfin, cela dit, il ne répond pas là-dessus, ce qui pour nous donne quitus sur ce qu'on a dit. Le deuxième point, quand il dit l'image correspond à la réalité de l'instant, c'est ça vous dites, ou du moment. Alors moi, si vous voulez, vous me permettrez de ne pas être tout à fait d'accord avec cette expression. Je la trouve d'ailleurs assez...
Non, pas du moment, il dit que l'image correspond à la réalité de l'ensemble. Elle est peut-être pas vraie sur l'événement lui-même, mais elle est vraisemblable parce qu'elle correspond à la réalité de la situation en Cisjordanie et à Gaza.
Oui, bah écoutez, j'ai pas besoin évidemment de vous convaincre que ce genre d'argument est un argument d'une faiblesse inouïe. Quand on est journaliste, on se préoccupe pas de savoir de l'ensemble, mais de là où on est et de ce qu'on décrit.
Et là où il n'était pas d'ailleurs.
Et de là où il n'était pas. En plus, il n'était pas.
Oui, parce que c'était son caméraman. Voilà.
Et je voudrais ajouter, si je peux me permettre, moi je dirais, ça correspond en gros à ce que l'opinion française globalement veut entendre à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est, me semble-t-il, quelque chose qui est plus préoccupant. C'est-à-dire que, en gros, j'ai le sentiment qu'on a une grille de lecture de ce qui se passe au Proche-Orient et que finalement, les faits sont convoqués pour entretenir cette grille de lecture. Et je crois que c'est, enfin, vous conviendrez avec moi, c'est pas le rôle d'un journaliste de faire ça. Le rôle d'un journaliste, c'est d'essayer de rendre compte d'une situation à un moment donné. Et il me semble que dans cette affaire, je dis pas ça pour charger Charles, qui est un ami que j'ai connu, avec lequel j'ai travaillé pendant longtemps. Personne n'est à l'abri d'erreurs. Et moi le premier. Mais le minimum, c'est quand on fait des erreurs comme celle-là, qui sont aussi graves et qui ont autant de conséquences, c'est d'essayer de les reconnaître. Voilà mon point de vue.
Je partage tout à fait le point de vue de, naturellement, de Daniel et ce qu'il vient d'observer. Moi, je déteste en outre juger les confrères. Je veux dire, parce que, en effet, on peut toujours, dans la précipitation, commettre des erreurs. Et d'une certaine manière, enfin, il faut les éviter au maximum. Mais la phrase qu'il écrit dans le Figaro est quand même contraire à ce qu'est ce métier. On n'est pas là pour essayer d'imaginer des images qui vont donner le reflet d'une situation. On est là pour donner des faits, la réalité des faits, et non pas pour les réinterpréter. La vérité n'est pas celle que l'on veut. La vérité est dans la réalité. Et donc, je trouve que c'est une phrase qui est préoccupante du point de vue journalistique. Par ailleurs, en effet, aucun d'entre nous, comme le disait Daniel, n'est à l'abri d'une erreur. Mais, en l'occurrence, quand même, l'impact de ces images a été considérable. Elles ont fait le tour du monde, elles ont frappé les esprits. Et dans une situation qui est aussi délicate, on n'a pas le droit, d'une certaine manière, de ne pas reconnaître quand on s'est trompé.
Alors, Denis Jambard, Daniel Lecomte, je sais combien l'un et l'autre, vous avez une conception très, très haute de votre métier. Je sais combien vous êtes respecté dans la profession et y a une rigueur dans ce que vous faites que tout le monde vous reconnaît. Mais avec les éléments dont vous disposiez, pourquoi n'avoir pas publier l'enquête dans vos deux supports, à l'Express et sur Arte?
Moi, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai pas abordé cette enquête comme directeur de la rédaction de l'Express. Je l'ai fait comme simple journaliste. Je me suis emparé du sujet pour l'exploiter. Comme le disait Daniel tout à l'heure, au moment où nous avons été mis en cause publiquement, nous n'avions pas terminé notre travail. Et dans un tel brouhaha, je crois en effet, comme il le dit, nous aurions été inaudibles. Par ailleurs, nous avons été mis en cause, il faut quand même savoir, à la fois dans Télérama et dans un article du Monde. Et l'article que nous avons publié aussi, nous avons essayé d'obtenir un droit de réponse de la part du Monde, qui nous a été refusé, en tout cas qui m'a été refusé plus particulièrement. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons décidé de publier ailleurs. Si nous avions été au terme de l'enquête, et rien ne nous empêche de la reprendre aujourd'hui ou de la faire reprendre. Si nous avions été au terme...
Vous allez le faire ?
Pourquoi pas ? Rien ne nous empêche en tout cas de le faire. Et il y avait un débat public, donc il fallait le clore, et je pense que c'était difficile, en tout cas de mon point de vue, de le clore à l'intérieur de mon journal, que j'aurais utilisé comme un moyen de règlement de règlement de compte personnel, parce qu'en l'occurrence il ne s'agit pas de règlement de compte, il s'agit d'explication, d'éclairage et de recherche de la vérité. Mais je trouvais relativement déplacé d'utiliser l'Express pour cette affaire-là, et dès lors qu'on avait la possibilité de s'exprimer ailleurs, et je l'ai fait en tant que journaliste et non pas en tant que directeur de l'Express, parce que j'ai été mis en cause en tant que journaliste et non pas en tant que directeur de l'Express, je trouvais légitime de passer par un autre média.
Daniel Lecomte.
Alors, moi j'avais à peu près le même point de vue. Quand Luc Rosenzweig est venu me solliciter sur cette affaire, c'était d'abord de l'entendre et d'essayer de faire la part des choses dans cette affaire, en me disant qu'il y a possibilité de faire un film derrière, s'il faut le faire, on le fera et ça m'intéresserait de le faire. Donc c'est comme ça que en ce qui me concerne, je suis rentré dans cette affaire. À partir du moment où nous avons été bloqués dans l'entreprise qui était la nôtre, à partir de ce moment-là, je me suis donné le temps de réfléchir. Il n'est pas exclu du tout qu'il y ait un film derrière. Ça dépendra en grande partie, vous savez, là, de la collaboration de France 2. Est-ce que France 2 sera prêt à jouer le jeu? Parce que ça dépend. Pour ce qui concerne, en tous les cas, les images et l'audiovisuel, c'est quand même déterminant. J'ajoute que quand Denis et moi avons eu la même démarche, quand nous avons été sollicités dans cette affaire, notre objectif n'était pas de régler des comptes avec Anderlin. Nous n'avions aucun contentieux avec lui, de régler des comptes.
Moi, je ne le connais pas, contrairement à Daniel.
Voilà.
Même jamais rencontré.
Et moi, je le connais et j'ai plutôt de la sympathie pour lui. Il m'a toujours bien accueilli à Jérusalem. Et je dois dire que c'était un camarade efficace et complice dans le travail. Donc, j'ai rien à lui reprocher personnellement. Mais et c'est la raison pour laquelle, quand je suis entré dans cette affaire, notre but, mon but en tous les cas et celui de Denis après, a été de se dire finalement, c'est à France 2 de faire ce travail. France 2, si on peut arriver, par les éléments qu'on a à notre disposition aujourd'hui, à convaincre Arlette Chabot qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire, il vaudrait mieux que ce soit France 2.
Arlette Chabot en même temps elle s'est expliquée là-dessus et au surplus elle n'était pas en fonction au moment des événements.
Non mais attendez, je suis le premier à reconnaître, comme Denis, le rôle extrêmement courageux et efficace qu'a joué Arlette.
Et transparent.
Mais en même temps, il me semble que Charles pourra sortir de cette affaire, et ça sera mieux pour tout le monde, et à commencer par lui et pour France 2, que France 2 fasse ce travail. S'il n'est pas fait, peut-être que nous le ferons, mais je trouve que ça serait une occasion ratée pour France 2 de faire preuve dans cette affaire d'un exemple de professionnalisme en revenant sur une affaire qui semblait être acquise pour revenir dessus et dire eh ben là-dessus nous nous sommes trompés, comme ça se fait ailleurs, comme ça s'est fait sur CBS récemment quand les gens de CBS se sont sentis effectivement instrumentalisés par des journalistes à un moment donné, même si l'affaire n'est pas la même. Je pense que ça serait l'honneur de France 2 de faire ce travail.
Alors, ce que vous dites, en tout cas, dans votre papier dans le Figaro, c'est que il faut faire la lumière sur cette affaire. Il faut aller au bout de l'enquête, même si vous n'allez pas jusqu'à dire que avoir la conviction qu'il s'agit d'une manipulation.
Écoutez, alors ça, je me garderai bien de le dire. Au vu de ce que nous avons vu, je tirerai jamais moi cette conclusion. Voilà. Je dis ce que je
vous signale. Qu'il y a un papier de Jeune Afrique cette semaine qui s'appelle L'horreur manipulée. Point d'interrogation, oui, signé de Jacques Bertrand.
Écoutez, moi, je pense que c'est nous qui avons enquêté le plus sérieusement sur cette affaire-là. Donc, nous sommes allés au point où nous pouvions dire un certain nombre de choses. Au-delà, vous ne me les ferez pas dire. Mais je vous dis, on peut reprendre l'enquête et essayer de la pousser.
Vous dites aujourd'hui, il y a pas de certitude, mais il y a des doutes, il y a beaucoup trop de doutes dans cette affaire.
C'est assez simple. Charles Anderlin n'était pas là présent au moment des faits. Nous disons, deux, au moment où Charles Anderlin dit que l'enfant est visé par des balles israéliennes,
c'est faux,
il n'a pas les moyens de le dire, et tout plaide pour le contraire. Trois, quand il dit qu'il a filmé la scène de l'agonie de l'enfant,
c'est faux.
Donc ça fait trois choses quand même suffisamment importantes
pour des images qui ont fait le tour du monde.
Des images qui ont fait le tour du monde avec une explication de ces images qui disait que cet enfant avait été visé, que deux il avait. Enfin bref, c'était des images de la barbarie israélienne. Donc on est dans une histoire qui n'a rien à voir avec ça.
Quatrièmement, qui est quand même très troublant, vous dites qu'au moment où Talal Abu Rahmeh est en train de filmer la supposée agonie du gosse, il y a à côté, on filme des mises en scène des blessures imaginaires.
Voilà, il y a des mises en scène.
Sauf une.
Voilà. Ouais. Donc tout ça s'est avéré. Enfin, si un jour France Télévisions décide de montrer ses rushs, pourront faire le même constat. D'ailleurs, les gens de France 2 qui étaient autour de la table avec nous ont reconnu ça sans aucun problème. Maintenant, dire que tout est une mise en scène dans la mort de l'enfant, dans les blessures du père, etc. Ouais. Moi, j'en sais rien. Peut-être la menace. Que la menace dise ça. S'ils ont des éléments, qu'ils nous les donnent, qu'ils les disent. Nous, ce qu'on a vu ne nous amène pas du tout à dire ça, et plutôt même à dire le contraire.
Voilà. On peut même dire que le père a été refilmé quasiment déshabillé, et on peut constater, en tout cas sur son corps, des blessures qui correspondent exactement aux blessures, et en tout cas aux pansements qu'il a, le lendemain quand il est filmé dans un hôpital de Gaza. Ça, c'est clair. Et donc, naturellement, ça incite à la plus grande prudence, et moi, je m'interdirai toute conclusion sur la manipulation concernant l'enfant et le père.
Et je vous ferai noter que l'AMENA, sur ces questions-là, ne dit pas plus de choses. Ils mettent en contradiction, ils mettent en contradiction des éléments qui ont été donnés par les Palestiniens, par un certain nombre de gens, par Charles Anderlin lui-même. Mais enfin, ça suffit pas. C'est un procédé un peu conspirationniste qu'on pourrait dénoncer quand il s'agit de dire, parce qu'il y a un certain nombre de contradictions dans la version officielle qui est donnée par la Maison Blanche sur l'affaire du 11 septembre, que pour autant, il n'y a aucun avion qui s'est écrasé sur le Pentagone. On voit bien à quoi ça mène. Donc on ne va pas nous se prêter, si vous voulez, à ce genre d'analyse qui n'entre pas du tout dans la façon qu'on a de voir la gestion de l'information et qu'on dénonce partout ailleurs quand elle est faite de cette façon. Donc on ne va pas, nous, dans cette affaire, se prêter à ce jeu-là. Voilà.
Alors je signale aussi que Luc Rosenzweig donnera sa version des faits dans un article du Figaro qui paraîtra cette semaine et que dans les prochains jours, nous sommes naturellement tout à fait disposés à recevoir Lettre Chabot si elle souhaite s'exprimer sur le sujet, bien que comme vous l'avez dit, Daniel Lecomte, elle soit hors de cause puisqu'elle n'était pas en fonction. Est-ce que vous estimez tout de même que France 2 a donné toutes les explications dans cette affaire?
Moi, je trouve En tout cas, Arlette Chabot a fait tout ce qu'elle avait à faire. Voilà. À notre endroit, elle a été parfaitement loyale et transparente. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens d'aller plus loin? Eh bien, il faudrait réenquêter et je n'en suis pas certain.
Ce que manifestement vous vous apprêtez à faire l'année et l'autre, Daniel Lecomte.
On verra.
On verra.
Merci à tous les deux. Donc, je recevais aujourd'hui Denis Jambard, directeur de L'Express, et Daniel Lecomte, producteur et réalisateur de télévision.